Florence Raymond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Lille.
Oui.
Et ce musée organise une grande exposition consacrée à Boilly. Est-ce qu'on peut dire que c'est une rétrospective complète?
Oui, on peut absolument employer le vocabulaire de rétrospective avec même un adjectif, une coquetterie. On peut parler de rétrospective internationale pour cette exposition que nous consacrons à Louis Boilly. Louis Boilly est né exactement il y a 250 ans et l'occasion était trop belle cette année de lui consacrer une exposition qui manquait encore à l'histoire de ce peintre.
Rappelez-nous sa date de naissance.
Alors Boilly est né en 1761 à Labassée, quelques encablures de Lille, et mort à Paris en 1845.
Alors 84 ans, c'est un bel âge pour vivre, j'allais dire. Et il a traversé une époque assez incroyable. Avant la Révolution, après la Révolution, il a connu des gens étonnants, notamment des grands peintres, David et d'autres. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance.
Oui, absolument. Lorsqu'il commence à peindre, Boilly s'autoporträture en quelque sorte. Il fait un grand nombre d'autoportraits. Et la première section de l'exposition est consacrée à cette représentation de soi-même. Et on voit dans ces autoportraits l'évolution des modes, des époques, à travers une première silhouette très ancien régime qui se dessine dans ses premiers autoportraits, jusqu'à une allure beaucoup plus romantique dans les années 1830. Et à travers ces quelques toiles, déjà, on sent l'évolution d'une période, d'une époque, et il a su la traverser. Il a su la traverser parce qu'il a su proposer à une clientèle qui aimait sa peinture des thèmes. En tant que chroniqueur de l'époque, il a montré aussi à ses contemporains leur manière de vivre, en quelque sorte.
Donc il a vécu et travaillé dans une époque où la photographie n'existait pas. Et il a peut-être connu daguerre dans ses dernières années de vie, mais le portrait, c'était quelque chose de fondamental à cette époque-là. Et forcément, beaucoup de gens souhaitaient des portraits. Pourquoi souhaitaient-ils des portraits faits par lui ?
Ah, bonne question. Boilly a mis au point en quelque sorte une formule qui est présentée en tête d'exposition. Nous présentons une série de petits portraits qui étaient autant de cartes d'identité de l'époque. Un fond sombre, un cadrage au buste, un visage toujours bien senti, précisé, détaillé. Et donc le commanditaire pouvait se reconnaître, pouvait donner à son cercle, à son entourage, une image de lui qu'on a gardée souvent dans les familles jusqu'à aujourd'hui. Et nous savons que dans les collections particulières de la région, il y a encore beaucoup de choses qui se cachent.
Donc parlons de sa façon de travailler. Certains peintres sont un peu plus, je ne vais pas dire agressifs, mais incisifs et prennent plus les défauts des personnes, enfin les traits particuliers des personnes. Là, on est dans le domaine du convenable, donc des tableaux qui satisfont les clients.
Du convenable, oui, mais on s'aperçoit que Boilly n'idéalise pas ses modèles. Nous avons quelques dames et quelques messieurs aussi qui peuvent montrer une physionomie un petit peu ingrate. Il ne va pas chercher l'idéalisation, coller au plus près d'un style qui est alors néoclassique, qui tend à idéaliser à travers le regard que l'on pose à cette époque sur l'Antiquité, qui est alors vraiment une source d'inspiration. À l'inverse, si je puis dire, dans ces caricatures de fin de carrière, là, Boilly nous donne à voir des physionomies tout à fait déformées par la grimace, contorsionnées, qui disent aussi de la férocité de la nature humaine. Et là, on a un vrai pendant entre ces petits portraits qui n'idéalisent pas totalement les commanditaires. Et puis en fin de carrière, une caricature, une série de grimaces qui a fait son succès et qui montre aussi le panel de l'artiste, puisque Boilly se lance dans la lithographie, une technique vraiment novatrice à l'époque, et dans la caricature à la fin de sa vie.
Alors, est-ce que cette caricature a inspiré Daumier ?
Ah, on dit que Boilly a inspiré Daumier à juste titre. Les lithographies de Boilly ont connu un succès jamais démenti. On en trouve encore sur le marché de l'art. On a en tête les métiers de Paris lithographiés par Boilly. Et c'est un artiste qui a été beaucoup regardé par les grands caricaturistes du 19e siècle.
Donc si on reprend sa genèse ou la genèse de sa carrière, elle a démarré à l'Abbassé, hein. Il est né à l'Abbassé, il a commencé à apprendre là. Ensuite, on le retrouve à Douai, à Arras, et il a trouvé des mécènes, notamment dans l'église, hein. À l'époque, c'était quand même ça.
Absolument. Alors, il nous reste malheureusement très, très peu de choses de la production de Boilly, jeune homme. Les œuvres ont été détruites, malheureusement, par les assauts de la guerre. On sait que Boilly a été accueilli par un de ses parents à Douai, qu'il a commencé à s'exercer à la peinture, puis à Arras. Alors, il se mariera à une arrageoise, dont il aura cinq beaux enfants. Il en perdra malheureusement un grand nombre en bas âge. Mais on sait qu'à Arras, il se familiarise aussi avec l'œuvre de Doncre, qui serait son premier maître, et qui l'aurait familiarisé notamment à l'art du trompe-l'œil, qui est une des sections importantes de l'exposition.
Donc après un certain temps, il arrive en pleine maturité à Paris.
Il arrive en pleine maturité à Paris. C'est le succès parisien des années 1790, à un moment justement où le goût change, le régime politique change. Et Boilly propose encore à ce moment-là à son mécène, qui est Calvet de la Palin, qui est un collectionneur absolument délicieux d'Avignon. Ils se sont rencontrés à Paris. Et Calvet de la Palin lui commande un cycle de 8 tableaux. Nous en présentons 4 dans l'exposition. Ils sont conservés à Saint-Omer. C'est vraiment un joyau pour le musée de Saint-Omer que de conserver ces 4 tableaux. Et qui nous montre une peinture encore très 18e, avec des codes galants, on y raconte des amourettes, il y a des hommes dans les boudoirs, la manière de peindre aussi fait penser au peintre Fragonard, vraiment ces années 1880 qui ont vu une peinture française à son apogée.
Ensuite, il y a la Révolution, donc une période un peu complexe, on va dire, sinon trouble, où il faut qu'il trouve ses marques et une reconnaissance. Comment résister au temps de révolution et comment on reste un artiste à ce moment-là?
Comment reste-t-on un artiste, oui, pendant la période révolutionnaire? On conserve très peu d'œuvres de Boilly pendant la période révolutionnaire, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de commandes, hein, tout a été bouleversé. On présente notamment une belle série de dessins avec des thèmes révolutionnaires, parfois assez cinglants, avec une maîtrise dans l'application des encres et des couleurs qui nous montre que là, Boilly, jeune homme, est déjà un grand peintre. Et puis, c'est une époque aussi où Jean-Baptiste Vicard, qui est un compatriote, qui est lui-même peintre, collectionneur, proche du pouvoir, dénonce Boilly pour ses tableaux de mauvaises mœurs. On y voit notamment dans ces scènes plus ou moins galantes un regard complaisant par rapport à l'ancien régime. Alors, Boilly, peut-être pour se dépêtrer d'une mauvaise réputation qu'il n'avait pas forcément, choisit de présenter un tableau, Le Triomphe de Marat, au concours de l'an 2. Alors, sans doute est-ce un geste patriotique pour montrer aussi que lui, Boilly, pouvait produire une fresque populaire, une fresque historique en lien avec les bouleversements de l'époque. Et petit à petit, Boilly fait sa place, les dénonciations s'effacent, Vicard aura aussi sa belle carrière, mais finalement on s'aperçoit que sans être un peintre d'histoire, comme on l'entend au sens propre, un peintre officiel qui va portraiturer le pouvoir, Boilly arrive à nous montrer aussi les grands événements de son époque.
Donc quand on arrive au début du 19e siècle, il est bien réinstallé.
Oui, je crois que finalement, il n'a jamais, à part dans les années 1789, 90, 92, connu de grandes difficultés. C'est un peintre qui a toujours exposé au Salon du Louvre. C'est alors à ce moment-là, ce qu'on pourrait nommer en équivalent la FIAC d'aujourd'hui, la Foire d'Art Contemporain à Paris, ça avait la même ampleur. On se déplaçait par milliers pour aller voir les peintures contemporaines qui étaient alors exposées dans le salon carré du Louvre, qui est maintenant dans la grande galerie du musée du Louvre. Et Boilly a toujours exposé de manière régulière près d'une cinquantaine de tableaux à partir de 1798 jusqu'aux années 1830.
Alors Florence Raymond, cette exposition Boilly, donc au Musée des Beaux-Arts de Lille, réunit un grand nombre d'œuvres. D'où viennent-elles ?
Nous réunissons, il est vrai, 190 œuvres. C'est beaucoup. 190 œuvres qui sont autant de tableaux, dessins, lithographies, miniatures, mais aussi pièces de mobilier dans la section Trompe-l'œil. Donc un bel ensemble qui, je crois, n'a jamais été réuni jusqu'à présent pour montrer l'envergure d'un artiste. Et ces œuvres viennent majoritairement des plus grands musées internationaux, parisiens notamment. Le musée du Louvre, le musée Carnavalet, le musée Marmottan ont décidé de se séparer de leurs œuvres pour 3 mois. C'est toujours une séparation, un choix, véritable choix pour les responsables des collections de se dire ce tableau-ci, oui, nous allons l'envoyer à Lille pour qu'il soit présenté dans la rétrospective. Les musées de la région Nord-Pas-de-Calais participent aussi vaillamment à l'exposition avec, j'en oublierai certains, mais je vais quand même essayer de les énoncer, Douai, Arras, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, qui participent de manière très très nette à l'exposition. Et puis ensuite, nous nous sommes attelés aux grands musées américains, russes et anglais, qui possèdent de très beaux boyers et qui, pour l'occasion, ont aussi choisi de les exposer à Lille.
Donc Florence Raymond, c'est une occasion unique pour le public régional de découvrir un artiste né qui s'est inspiré peut-être de cette région. Est-ce qu'il y a des œuvres qu'il faudrait présenter comme majeures, lesquelles ?
Je crois que la section qui est au cœur de l'exposition présente ses œuvres majeures. Alors on a le tableau représentant Houdon, le grand sculpteur français dans son atelier, qui est une de ses plus belles toiles. Et là, Boyer nous montre un sculpteur à l'ouvrage. C'est une manière aussi de, pour un peintre, de représenter un sculpteur, de représenter le volume en peinture. C'est quelque chose qui n'est pas finalement si facile et si fréquent dans l'œuvre de Boyer de manière générale. Et le jardin turc, qui est conservé à Los Angeles au Getty Museum, qui est une acquisition récente, tout comme son dessin préparatoire. Et la toile a été acquise pour plusieurs millions de dollars et ça a été une très très belle acquisition. Et c'est souvent un argument ou une information qui étonne de voir qu'un artiste local, né à la Bassée, très parisien, avec une carrière très française, peut être aujourd'hui acquis par un des plus grands musées américains pour une somme plus que coquette. Et finalement, la valeur pécuniaire de sa toile revalorise aussi, aux yeux du grand public, de tout le public, une œuvre que l'on connaît et que l'on souhaite découvrir et faire redécouvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Est-ce qu'on peut imaginer que des habitants de la région aient chez eux, dans leur grenier, une œuvre de Boilly et qu'ils l'ignorent ?
Ah, on peut l'imaginer, je suis sûre que la situation existe. Absolument.
Bon, alors fouillez vos armoires, fouillez vos débarras, vous allez peut-être retrouver un Boilly. Et en tout cas, rendez-vous pour voir sa peinture au Musée des Beaux-Arts de Lille. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.